Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité francophone. Une actualité toujours dominée par la suite des attentats de Paris et Bruxelles. Salah Abdeslam, le seul survivant du commando de Paris, a été transféré cette semaine de Belgique en France. Il est maintenant incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. Nous nous intéresserons à la personnalité et aux motivations de son avocat français. En Belgique, la police des polices a pointé des failles dans la surveillance des frères Abdeslam, signalés comme radicalisés depuis 2 ans. Le parquet fédéral avait demandé la vérification de leurs communications téléphoniques et de leurs courriels. Ça n'a pas été fait, faute de moyens. Aux Philippines, un otage canadien assassiné par le groupe islamiste Abu Sayyaf. La Suisse, elle, tourne une page sombre de son passé. Le Parlement accepte d'indemniser les enfants placés, 100 000 enfants pauvres, placés de force dans des familles ou des institutions. Une pratique qui remonte au début du 19e siècle, mais qui s'est poursuivie jusqu'en 1981. Le transfèrement de Belgique en France de Salah Abdeslam, principal suspect encore en vie des attentats du 13 novembre 2015, a fait évidemment la une des médias des deux pays en milieu de semaine. Même son avocat français, Franck Berton, ignorait l'imminence de l'opération quand il a rencontré son client vendredi dernier à la prison de Beveren en Flandre. Il voulait, avant d'accepter le dossier, s'assurer qu'Abdeslam ne se murerait pas dans le silence et collaborerait avec la justice. Franck Berton, c'est un personnage, voix grave, cheveux gominés, barbe de 3 jours. Dans un film policier, on l'imagine plutôt dans le rôle du voyou que dans celui du notable. Certains de ses confrères lui reprochent de chercher surtout les projecteurs dans les affaires qu'il prend. Lui affirme ne faire que son travail dans une démocratie, y compris pour défendre des terroristes. Maître Franck Berton.
Salah Abdeslam doit avoir un procès équitable, il doit être défendu. Il est présenté comme finalement aujourd'hui le seul survivant qui reste des attentats de Paris. Et la tentation va être forte de lui rejeter la responsabilité de tout ce drame sur les épaules. Ce garçon doit être défendu et il le sera.
Salah Abdeslam a été placé en détention provisoire à Fleury-Mérogis, en région parisienne. Il est à l'isolement, sous télésurveillance, 24 heures sur 24 dans sa cellule. C'est une première. Mis en examen dès mercredi, il sera à nouveau entendu par les juges le 20 mai. Et à propos de Salah Abdeslam et de son frère, qui lui s'est fait exploser dans une brasserie du boulevard Voltaire à Paris le 13 novembre, à propos de ces deux frères, donc, la commission parlementaire belge a cherché à savoir pourquoi leur dossier avait été classé sans suite, alors qu'ils avaient été signalés comme dangereux quelques mois avant les attentats de Paris, Nathalie De Vic.
Question cruciale, réponse cruelle, tout simplement parce que la police ne disposait pas des moyens suffisants pour les surveiller. Pourtant, leur dossier était classé rouge, autrement dit urgent, car même s'il n'y avait encore aucun projet d'attentat, il était déjà question de radicalisation et de possibles départs en Syrie dès l'été 2014, comme d'ailleurs pour des dizaines d'autres suspects. Faute donc de personnel, il a fallu faire des choix et ce dossier-là a été mis de côté, pas jugé ultra prioritaire. Les frères Abdeslam n'ont pas été mis sur écoute, par exemple. Des devoirs d'enquête n'ont pas été menés. Du matériel informatique saisi n'a pas été analysé. Des informations non transmises. C'est tout cela que pointe aujourd'hui dans son rapport le comité P, la police des polices, chargée d'évaluer l'enquête sur les auteurs des attentats de Paris.
Un rapport donc visiblement accablant pour les enquêteurs de la cellule antiterroriste.
À première vue, oui, mais avec plein de réserves émises par les députés qui l'examinaient cette semaine en commission parlementaire. Ils estiment ce rapport incomplet, partiel et partial, car seulement à charge, et ils réclament la réponse des services incriminés avant de rendre un quelconque jugement. Une réplique attendue la semaine prochaine, mais déjà les réactions fusent. Le président du syndicat de police, Vincent Gilles, est sans ambiguïté. Ce ne sont pas les policiers qui prennent les décisions quant aux priorités accordées au dossier, mais bien les magistrats.
Alors lorsqu'on prétend que faute de moyens, les policiers ont fait le choix d'eux, c'est évidemment une injure à la vérité. Si ce magistrat a fait le choix de positionner telle personne en priorité 2 ou 3, c'est tout simplement la raison qui le lui commandait. Cette raison, elle est simple, elle est connue de tout le monde. La police Et dans la police, l'antiterrorisme est pauvre comme Job. Nous n'avons plus les moyens de satisfaire à un service policier pointu, comme on devrait le faire.
Des policiers très remontés contre cette enquête du comité P, non seulement parce qu'elle vise à créer des coupables, disent-ils, mais aussi parce qu'elle leur prend un temps précieux à devoir se justifier, alors que le risque terroriste est toujours bien présent en Belgique et que tous les moyens, déjà insuffisants, devraient se concentrer aujourd'hui sur la menace et la réelle urgence.
Un otage canadien a été tué cette semaine aux Philippines par les djihadistes du groupe Abu Sayyaf. L'homme avait 68 ans, il avait été enlevé en septembre dernier dans une marina au sud du pays, à près de 1000 km de la capitale Manille. Benoît Audet, les djihadistes sont allés au bout de leur chantage.
Oui, ils avaient menacé de tuer un de leurs otages si les autorités ne leur versaient pas des millions de dollars de rançon. La victime, John Ridsdale, avait été enlevée en même temps qu'un autre Canadien, sa conjointe et un Norvégien l'année dernière. On est d'ailleurs sans nouvelles des otages toujours aux mains d'Abu Sayyaf.
Quelle est la position du gouvernement canadien sur cette question?
Le premier ministre Justin Trudeau a dit que le Canada ne paie pas et ne paiera pas de rançon aux terroristes. Il ne veut pas qu'une telle façon de faire encourage des groupes terroristes à s'en prendre à des Canadiens. Le premier ministre est préoccupé du sort de l'autre otage canadien toujours aux mains d'Abu Sayyaf et les efforts se poursuivent pour tenter de le faire libérer.
En Suisse, le Parlement a décidé mardi à une large majorité de débloquer 300 millions de francs pour indemniser les victimes de placements abusifs, ces enfants placés de force dans des familles paysannes ou des institutions. Une pratique qui s'est poursuivie jusque tard dans le XXe siècle, Pierre-Anne Chauffat.
Oui, les derniers cas de ce que l'on a appelé les enfants volés datent du tout début des années 80. Les raisons de ces placements forcés allaient de la simple pauvreté au divorce des parents, à leur décès ou encore aux naissances illégitimes. Les témoignages recueillis ces 20 dernières années ont mis au jour, au-delà de la simple exploitation d'une main-d'œuvre quasi gratuite, des maltraitances et même des abus sexuels. Mais pour les autorités, confiées ces enfants à d'autres familles coûtaient moins cher que de prêter assistance à leurs parents. Guido Flouri était lui-même un enfant placé. C'est lui qui a exercé la pression sur le politique pour obtenir cette reconnaissance. Il est aujourd'hui heureux et fier.
C'est une décision qui va faire date, une décision historique que le Parlement a prise aujourd'hui. J'espère que ces gens qui ont autant souffert de ces abus dans leur vie pourront laisser désormais quelque chose derrière eux. Avec cette décision historique, c'est vraiment magnifique. Je dois vous le dire, je suis fier de notre Suisse.
La seconde chambre du Parlement doit encore confirmer cette décision, mais ce ne devrait être qu'une formalité. Les victimes encore vivantes de ces mesures de coercition à des fins d'assistance pourront alors toucher en moyenne 20 à 25 000 francs suisses. Le gouvernement les estime entre 12 et 15 000 personnes. Un député le soulignait, cette contribution symbolique permettra de boucler un dossier tragique de notre histoire.
Et c'est là-dessus que nous quittons nos partenaires francophones pour aujourd'hui. Rendez-vous sur notre nouveau site, lesmediafrancophones.org.
Merci et à la semaine prochaine. C'était l'actualité francophone présentée par Annette Ardisson.